Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast tous les deux, parce qu'on avait à chaque fois des invités. Mmh. Bon, le prochain, je pense qu'il y aura une invitée de marque qui sera présente.
Ouais. Là, suspense, alors, quel suspense ça?
Suspense, effectivement. Et là, on est tous les deux, on va parler du trouble dissociatif de l'identité.
Ouais, c'est un sujet sur lequel on nous pose beaucoup de questions, et sur les réseaux sociaux, j'en parle pas énormément parce que c'est un sujet un peu technique, et puis aussi avec des... On va en parler aujourd'hui avec des débats à l'intérieur, parce qu'il y a des personnes qui disent que ça n'existe pas, donc on va pouvoir en discuter, puis je vais pouvoir dire ce que j'en pense personnellement. Et donc voilà, du coup on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécifique là-dessus. Ça, juste, je voudrais faire une précision, les personnes qui sont intéressées par les sujets sur la dissociation, vraiment je vous invite à aller écouter le podcast qui s'appelle Dissociation avec un S de l'AFTD. L'AFTD, c'est l'association francophone du trauma et de la dissociation. Bon, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous le connaissez déjà parce que c'est une association qui a un congrès tous les ans auquel je vais vraiment tous les ans parce que c'est hyper qualitatif encore cette année, donc c'est toujours fin mars. J'y suis allée et j'ai fait quelques petits retours. Et eux, ils sont vraiment... leur podcast est dédié à la dissociation sous toutes ses formes, etc. Donc si après ce podcast-là, vous voulez approfondir spécifiquement ce sujet, vraiment, je vous invite à aller le voir.
Alors, qu'est-ce que c'est justement le TDI? C'est comme ça qu'on appelle.
On appelle ça le TDI, donc trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble qu'on va trouver dans le DSM ou la CIM, donc les manuels avec lesquels...
Le diagnostic.
Voilà. Enfin, en fait, la CIM n'est pas un manuel diagnostique, c'est un manuel de classification. Et d'ailleurs, dedans, il n'y a pas que maladie psy. Alors que dans le DSM, c'est vraiment le manuel diagnostique en santé mentale qui est américain. Et qui en est à sa version 5 révisée, donc on appelle ça 5TR, texte révisé. Et la CIM, la classification internationale des maladies, en fait, est utilisée dans certains pays pour faire du diagnostic, puisque dedans, on a tous les différents symptômes, finalement, que regroupent toutes les maladies, mais dedans, tu peux retrouver aussi des pathologies somatiques, tu vois, tu peux avoir des pathologies physiques, quoi. Mais, voilà, notamment la Suisse utilise beaucoup plus la CIM, nous, en France, on utilise plus le DSM, voilà. Donc, mais en tout cas, ces manuels sont utilisés, tous les deux, pour faire du diagnostic... en santé mentale notamment, et donc il y a le TDI dedans, donc qui décrit un trouble dans lequel on a de la dissociation. Donc la dissociation, on avait déjà fait un podcast il y a 2 ans maintenant dessus. Si vous voulez retrouver, il faudra aller parmi nos premiers podcasts. Il
faudra scroller un peu. Ouais.
Parce que la dissociation, c'est pas forcément quelque chose qui est pathologique. On est tous à certains moments dissociés. D'ailleurs, dans le podcast, tu en avais parlé, puisque tu te formais déjà à l'hypnose, et avec l'hypnose, vous travaillez avec la dissociation, mais la dissociation, on pourrait dire curative. Celle qui traite, on utilise la dissociation pour traiter. Et nous aussi, en psychotrauma, on utilise parfois la dissociation. Donc la dissociation, c'est comme un continuum, c'est-à-dire que selon l'intensité, on pourrait dire ça comme ça, alors c'est pas tout à fait le terme technique, mais disons, pour se le représenter, selon l'intensité de la dissociation, on va finir par devenir pathologique. Parce que si on peut choisir d'être en dissociation, ça peut être des gens en très bonne santé qui sont en dissociation tous les jours. Je sais pas, t'avais donné l'exemple quand on est en train de conduire et qu'on est vraiment très concentré sur sa conduite, peut-être qu'il y a certains bruits qu'on n'entend plus, donc c'est une forme de dissociation. Peut-être qu'il y a certains symptômes physiques qu'on ne va plus ressentir, je ne sais pas, imagine que tu avais mal au ventre, tu n'as plus mal au ventre, enfin, ça c'est de la dissociation, mais c'est de la dissociation normale, naturelle, qui est liée à de la concentration, on pourrait dire ça sur quelque chose de particulier. Mais quand la dissociation n'est plus un choix, c'est-à-dire que ça devient un symptôme pathologique, c'est-à-dire que tu le subis, ça peut venir soit tout le temps, soit de manière, en tout cas, que tu puisses pas choisir et surtout arrêter. Et dans ces cas-là, ça devient pathologique. Et donc, on peut avoir donc, des troubles dissociatifs qui ne soient pas un TDI, donc trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire que quand tu as certains déclencheurs, notamment quand tu as vécu des traumatismes, ton cerveau, il a voulu mettre certaines choses de côté, on parlera peut-être un peu plus tard de comment ça fonctionne dans le cerveau, parce qu'il y a des études là-dessus, voilà. Et donc, dans certaines conditions, tu peux être en dissociation, comme, je sais pas, par exemple, tu as eu un accident de voiture, tu as perdu des gens dans cet accident de voiture, la voiture qui t'est rentrée dedans était rouge, toi, à chaque fois que tu vois une voiture rouge, tu peux avoir un symptôme dissociatif, ou tout à coup, tout autour de toi, tu vois plus rien, mais tu ressens que l'angoisse de la même que tu as eu à l'accident, quoi. Oui. Mais c'est pas forcément un trouble dissociatif de l'identité. Ça va être un trouble dissociatif qu'on appelle partiel. C'est-à-dire qu'il arrive dans certaines conditions, à certains moments, tu peux pas le maîtriser, donc c'est pas un choix non plus, mais il est pas tout le temps dans ta vie. C'est-à-dire, par exemple, si je reprends la situation que je viens de décrire, tant que tu vois pas une voiture rouge, ton système dissociatif se met pas...
C'est occasionnel.
Voilà, ça va être en fonction de certains déclencheurs. Mais dans certains cas, les traumatismes ont été tellement intenses qu'en fait, et surtout ils se sont passés au moment de la construction du cerveau, donc à des âges précoces et de manière répétée. Et donc on se retrouve avec des personnes dont le cerveau s'est construit en mettant de côté plein d'événements auxquels il a besoin de ne pas penser tous les jours s'il veut fonctionner. Alors je dis fonctionner, mais en fait ces personnes fonctionnent de manière particulière. Mais néanmoins, parfois elles peuvent quand même aller travailler, manger, enfin faire les choses de base pour vivre. Et pour que le cerveau il puisse quand même le faire malgré tous ces traumatismes qui pourraient être très envahissants, mais en fait on va avoir différentes, je mets entre guillemets, là les personnes ne me voient pas, mais je mets des guillemets, différentes personnalités, on pourrait dire comme ça, qui permettent de... Donc il y a une personnalité qui fonctionne de tous les jours, et puis il y a d'autres personnalités. Alors on ne dit pas personnalité, justement, on dit partie. Dans la dissociation, on parle de partie. Parties émotionnelles, donc qui sont issues des traumatismes. Et donc, quand on a un trouble dissociatif de l'identité, en fait, la dissociation, elle est tout le temps. Et surtout, ce sont des personnes pour qui la dissociation est très rigide. Ça veut dire que quand elles sont dans une partie émotionnelle, elles peuvent oublier, donc il y a des amnésies traumatiques, elles peuvent oublier qu'il y a ces autres parties émotionnelles qui existent aussi. Et donc là, c'est source de difficultés relationnelles, parce qu'en fonction de la partie qui est là ou qui entre en relation, c'est pas la même chose que si c'est pas la même partie qui réagit quand la personne est seule ou quand la partie qui réagit quand la personne est au travail. Donc voilà, ça c'est un petit peu grossier, mais voilà l'idée générale. Donc c'est sur un continuum. Donc la dissociation peut être soit normale, soit à l'autre bout du continuum. Là, c'est complètement notre identité qui a été façonnée par la dissociation, parce que les traumatismes qui ont été vécus ont demandé au cerveau de s'adapter. Donc c'est une histoire de connexions neuronales qui se sont altérées.
Je fais une petite pause dans cet épisode sur le trouble dissociatif de l'identité pour vous parler de la lettre psy, notre email que nous envoyons toutes les deux semaines. Dedans, vous trouverez 3 articles et une citation en lien avec la psychothérapie et la psychologie, mais aussi toute notre actualité YouTube, podcast ou réseaux sociaux, ainsi que les réductions sur les ateliers en ligne que l'on propose. D'ailleurs, le prochain atelier, pour mieux gérer ses émotions, approche et il ne nous reste plus que quelques parties à tourner. Dans la lettre de cette semaine qui sortira dimanche, je vais vous parler de comment s'est déroulée ma première supervision, et Catherine nous parlera d'une étude scientifique, ainsi que des aberrations qu'elle a apprises à la fac sur le traitement du trauma. Si vous êtes en formation ou étudiant, ça risque donc de vous intéresser fortement. Pour vous abonner, c'est rapide et facile, surtout quand on est les mains libres en écoutant ce podcast, en allant sur notre site internet catherinapsy.com. Et maintenant, on reprend le fil de notre discussion sur le TDI. Alors moi, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se traduit pour le patient. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Parce que là, j'imagine un peu quelque chose qui pourrait être aussi logique. Finalement, il y a mon moi qui est une partie qui est à la maison, quelque part, et une partie de moi qui pourrait être au boulot. Et finalement, c'est un peu deux personnes différentes. Mais toi, tu as l'air de dire que c'est encore plus prononcé que ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche?
Je vais prendre comme exemple la série dont tu avais parlé une fois dans la lettre psy qui s'appelle Severance, je crois.
Oui.
Donc voilà, donc pour les personnes qui écoutent quand même ou qui ne veulent pas regarder la série ou qui l'ont déjà vue, donc en fait, vous avez des personnes qui sont dissociées. C'est-à-dire au moment où elles rentrent dans leur entreprise, elles oublient qui elles sont quand elles sont à leur maison, parce qu'en fait, dans la série, c'est parce que c'est une question de sécurité des données de l'entreprise.
Voilà, il y a une partie, quand ils passent un portique dans l'entreprise, ils oublient tous ceux qu'ils étaient à leur maison, et ils ne se rappellent que la partie de quand ils étaient dans l'entreprise. Et l'inverse est vrai aussi, quand ils rentrent à la maison et ils repassent le portique, eh bien, ils oublient complètement ce qui s'est passé au travail, ils sont comme une sorte d'amnésie.
Voilà.
Et donc, les deux parties sont en train de ne se connaissent pas du tout, ne se fréquentent pas du tout, et d'ailleurs, ils se posent des questions après sur s'il y a une des parties qui meurt, est-ce que c'est un vrai individu qui meurt, etc.
C'est exactement ça, le trouble dissociatif d'identité, sauf qu'en général, tu as plus que deux parties. Mais c'est ça. Et ça veut dire que tu ne choisis pas à quel moment une partie ou l'autre vient. C'est en fait, c'est un déclencheur. Comme là, dans Severance, c'est le fait de rentrer dans le bâtiment du travail. Et ben, ça enclenche une des parties, donc une des personnalités. Et quand ils sortent, ça enclenche l'autre. Et ils ont oublié ce qui se passe l'un ou dans l'autre. Et ben, c'est exactement ça qui se passe dans le trouble dissociatif de l'identité. Sauf que les parties, c'est pas des parties, une pour travailler, une pour être à la maison. C'est des parties émotionnelles qui sont issues de traumatisme. Donc des fois, tu peux te retrouver avec des patients qui ont une partie petite fille qui a 5 ans, ça correspond à l'âge d'un traumatisme qui a été vécu. Tu peux avoir une partie adolescente qui a développé une stratégie, mais qui ne se rappelle pas que la petite a vécu un traumatisme. Tu peux avoir une partie adulte qui travaille, mais qui n'est que technique et qui n'a plus d'émotion. Des choses comme ça.
Et ces parties-là, elles arrivent de façon aléatoire ou c'est dans un contexte particulier qu'elles...
Alors, juste une précision pour répondre à cette question-là. Le trouble dissociatif de l'identité, donc c'est un diagnostic qui est reconnu par les manuels de diagnostic, mais qui est en recherche. Bon, après, si vous avez suivi diverses publications ou même notamment la vidéo YouTube des tables rondes sur les diagnostics, vous savez qu'un diagnostic, c'est quelque chose qui évolue parce que c'est quelque chose de culturel et aussi lié à ce qu'on connaît au niveau scientifique. Donc, un diagnostic, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de... je sais pas, comme tu verrais sur une IRM, bah là je vois tel truc et c'est quelque chose de sûr et certain. Les diagnostics sont des hypothèses de travail qu'on a estimées suffisamment probantes pour pouvoir les utiliser. Aujourd'hui, le TDI, c'est vraiment un diagnostic qui est un peu nouveau. C'est un diagnostic qui est en recherche. On commence à faire des imageries pour voir comment ça se passe dans le cerveau des gens. Par exemple, ils ont commencé à faire quelques études avec des personnes qui sont diagnostiqués avec un TDI selon les critères donc des manuels diagnostiques, ils les mettent dans une IRM et puis ils leur posent diverses questions et ils voient quelles sont les parties de leur cerveau qui se colorent disons, à l'IRM, pour voir comment ça fonctionne dans le cerveau d'une personne TDI. Et à côté de ça, ils ont engagé des comédiens et des comédiennes à qui ils ont raconté l'histoire des différentes parties émotionnelles. Et puis, comme ça, les personnes, quand on les met dans l'IRM, ils répondent aux questions et ils se mettent à la place, comme s'ils étaient des acteurs, quoi. Donc, ils investissent le rôle et ils se mettent à la place de la partie émotionnelle à qui on parle. Et en fait, on voit que chez les acteurs et les actrices, c'est toujours les mêmes parties du cerveau qui s'activent. Donc, on voit qu'ils sont toujours dans le même fonctionnement cérébral, quel que soit le rôle théâtral qu'ils ont pris. Alors que les personnes qui sont diagnostiqués avec un TDI, et ben ce sont différentes zones du cerveau. Donc on voit bien que le cerveau a été modifié par le trouble. Et donc, a priori, pour l'instant, les hypothèses qui semblent faites, c'est pas que le cerveau est modifié à vie, c'est juste que les connexions cérébrales sont altérées. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà dans le fonctionnement des traumatismes. C'est-à-dire quand t'as un traumatisme et que ton cerveau veut mettre de côté, je mets entre guillemets parce que c'est pas un terme technique, mais ton cerveau veut pouvoir fonctionner à peu près tranquillement sans être déclenché par les zones cérébrales liées au traumatisme, en fait, il va faire en sorte que les connexions fonctionnent pas très bien. Un peu comme quand tu vieillis, finalement, et à partir de 65 ans, bah, tes connexions cérébrales qui vont moins vite, pour ça t'oublies des choses, etc. C'est un peu le même principe. Et voilà. Donc pour répondre à ta question, ça va dépendre de comment les connexions sont plus ou moins altérées. Donc ça, c'est le côté un peu neuroscience, ce qui se passe dans le cerveau, mais quand t'es face à un patient, en fait, ce que ça va créer, c'est que, bah, soit comme dans Sévrance, comme tu disais tout à l'heure, il y a une amnésie totale, et donc il n'y a vraiment aucune connexion, aucun souvenir, et aucun... tu dis, les deux personnalités ne se rencontrent jamais. Donc ça, c'est vraiment un TDI vraiment... avec ce qu'on appelle des phobies dissociatives, c'est-à-dire certaines parties ont des phobies des autres, elles ne peuvent pas voir les autres, parce qu'elles sont trop angoissées, sinon ça les angoisse trop, etc. Et donc, mais tu as d'autres personnes qui n'ont pas des amnésies comme ça, donc tu peux te retrouver avec des personnes qui n'oublient pas complètement, ou qui ont des intuitions, mais qui ne voient pas exactement de quoi il s'agit, etc. Donc pour répondre à ta question, bah, quand on est face à un patient avec un TDI, je le nomme de manière un peu grossière, mais comme j'ai dit, ça peut être un peu variable en fonction de l'intensité de la dissociation, tu vas avoir des personnes qui sont face à toi, qui te parlent d'une certaine manière, peut-être avec des angoisses, avec un certain visage, et qui se tiennent d'une certaine manière, et au bout d'un moment... En général, il y a un déclencheur, donc le déclencheur peut être relationnel, donc ça peut être un mot que moi je vais avoir dit, ça peut être aussi quelque chose quand il rentre dans le cabinet, une couleur, comme je disais tout à l'heure, la couleur de la voiture, ça peut être une question que j'ai posée qui fait que la personne se connecte à certaines choses, enfin, il y a un déclencheur à un moment donné, et moi physiquement je vois la personne changer. C'est-à-dire que les mimiques du visage peuvent être différentes, la posture peut être différente, parfois la voix va être différente, et surtout les modalités de pensée et émotionnelles vont être très différentes. Par exemple, imaginons que j'étais face à une partie émotionnelle très angoissée, liée à un traumatisme, je disais tout à l'heure par exemple qu'il y a 5 ans, donc avec un langage, un champ lexical parfois vraiment de 5 ans, parce que les parties, à ces moments-là, tu as l'impression que les gens... fonctionne comme à l'époque du traumatisme. Quoi.
Est-ce que ça ressemble un peu finalement au film que j'avais vu avec toi qui s'appelle Split, où il y avait, qui est la suite de Incassable, donc un film qui date d'il y a un petit moment, où il y avait justement un acteur qui faisait une performance où il avait 27 identités différentes et il passait de la petite fille à une brute. C'était très romancé et c'est un film de super-héros quelque part, donc il y a un côté fantastique quelque part, mais est-ce que ça arrive un peu là-dessus?
Alors là, c'est un peu caricatural, déjà, parce que 27, c'est énorme. La plupart des personnes avec un TDI n'ont pas 27 parties émotionnelles. Et bon, c'était un peu caricatural quand même. Mais en tout cas, du coup, la personne va réagir très différemment. Si tu avais une partie émotionnelle qui était très angoissée, tout à coup, tu as un déclencheur, la personne se met en système stratégie avec une grande colère, tout à coup, elle peut se mettre à te parler avec une grande colère et puis avec un champ lexical qui peut être d'adulte si c'est une stratégie qui a été développée plus tard. Donc en fait, tu vas voir, on appelle ça les switches dans la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, donc la théorie d'une dissociation qui fait partie de la structure de la personnalité. C'est ça la dissociation structurelle, hein. Ça fait partie de la structure de ta construction finalement. Et donc voilà, ça va se manifester avec des switches et tout à coup t'as l'impression que tu as entre guillemets une personne différente, je dis entre guillemets parce que la personne, son ADN reste le même, alors cela dit, il y a des études, alors ça nécessite d'être approfondi, et même les études dont je vous parlais tout à l'heure dans les IRM, hein, pour l'instant c'est des études avec une vingtaine de personnes, donc ça, ce sont des pistes, hein, mais comme je le disais récemment en story, attention, quand on lit des choses, ça c'est scientifiquement prouvé, oui mais attention, il faut aller voir les méthodologies des études, c'est-à-dire que ce que je vous décris là, c'est une étude avec une méthodologie qui tient la route. Maintenant, l'échantillon est vraiment pas suffisamment grand pour qu'on puisse généraliser. Donc attention, quand on vous lisez des choses qui sont où c'est écrit, c'est scientifiquement prouvé sous prétexte qu'il y a une étude. Non, une étude...
Vous jugez de la qualité de l'étude, en fait, derrière.
Pas que de la qualité, puis de l'objectif. C'est-à-dire une étude comme ça, la qualité de l'étude est bonne. C'est juste que, attention, ça ne dit pas que c'est scientifiquement prouvé. Ça dit les pistes... Enfin, on est en bonne voie de comprendre des choses, mais c'est pas un échantillon suffisant. Et il y a quand même des choses qui sont vraiment étonnantes et qui sont en recherche, notamment sur le TDI, parce qu'il paraît que certaines personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité, tu as des parties qui ont des pathologies physiques. Et quand tu leur fais une prise de sang, j'avais lu une histoire comme ça, avec t'as une partie qui a de une leucémie, et une autre partie qu'il n'a pas du tout. Bon, alors c'est très intriguant, hein, donc là pour le coup, c'est sur 3-4 personnes, des 3-4 cas comme ça qui ont été reconnus, donc il y a besoin de faire des études.
Ça me paraît incroyable.
Ça paraît complètement incroyable. C'est vraiment. Bon voilà, donc vous voyez avec ce que je suis en train de décrire, en tout cas que moi je crois vraiment à cette hypothèse diagnostique, pour moi ça correspond vraiment à une réalité. On a besoin de faire beaucoup plus d'études pour comprendre comment ça fonctionne exactement et savoir si par exemple ces études qui montrent que ça s'activerait pas pareil dans les cerveaux des personnes TDI, des autres personnes, pour voir si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, ou si là, en fait, c'était d'autres facteurs qui font que c'était des parties du cerveau qui s'activaient différentes. Mais voilà, en tout cas, moi, pour moi, ça correspond vraiment à une réalité, ça a du sens, et en tout cas, maintenant, pour l'instant, on a quand même déjà des propositions. Je précise aussi, là, parce que parfois, on entend et on lit des choses... comme quoi, oui, telle approche de thérapie, ça ne marche pas, c'est pas scientifique, mais il faut savoir que il n'y a aucune approche de thérapie qui est que scientifique, complètement scientifique, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas évaluer, en tout cas isoler, on ne peut pas isoler toutes les variables, et en plus, heureusement qu'on a des propositions avant qu'on fasse des études, puisqu'il faut bien faire une proposition d'une approche de thérapie pour pouvoir ensuite l'étudier.
Donc pour aller vers du progrès, de toute façon, il faut passer par une phase d'expérimentation.
Bien sûr. Et donc, si on ne proposait aux patients que des choses extrêmement scientifiques, déjà, on ne leur proposerait rien. Si on voulait des choses le plus scientifiques possible, on ne proposerait pas grand-chose. Parce que sur tout ce qui est thérapie émotionnelle, il y a plein de choses qui sont très difficiles et qui prennent du temps. Et puis, il faut rappeler que...
Il y a une certaine organisation aussi de personnes qui ont envie de mener des études scientifiques sur leur approche. Peut-être que... Pas toutes les approches.
Puis ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Et c'est pas là où la psychothérapie, c'est pas là où les subventions sont les plus importantes. Donc évidemment, dans la pharmaco et pour les médicaments, il y a beaucoup plus de sous pour faire des études. Donc voilà, juste pour dire que c'est très important qu'on puisse proposer à nos patients des choses, même si elles sont pas encore étudiées ou si elles sont en cours d'études. Seulement, ce qui est important, en tout cas à mes yeux, c'est que les patients sachent. C'est-à-dire ils savent, quand on leur propose quelque chose, à quel point c'est scientifique ou pas, qu'ils puissent faire leur choix. Moi, c'est ça que je trouve important. Et puis aussi que, quand elles ne le sont pas encore, on aille vers des choses, on essaye de tester, mais voilà, je sais pas si...
Est-ce que, finalement, le trouble dissociatif de l'identité, est-ce que c'est un trouble neurodev? Est-ce qu'on voit vraiment une modification du cerveau? Parce que tu parlais de zones qui s'allument, mais est-ce que le cerveau, finalement, est vraiment différent d'une personne qui n'a pas ce trouble.
Alors, si on prend la définition d'un trouble neurodéveloppemental, qui est que, en fait, au moment, pour des raisons qui, pour l'instant, ne sont pas tout à fait identifiées, alors il y a plein d'hypothèses, hein, ça pourrait être du stress pendant la grossesse, ça pourrait être des traumatismes très précoces, enfin, voilà, il y a des études qui sont faites sur ces divers troubles, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais finalement, c'est le fait que, au moment du développement de ton cerveau, mais vraiment de manière très, très précoce dans l'âge, hein, c'est vraiment les premières années de vie, en fait, tu as des choses qui se développent pas très bien. Et donc, la structure de ton cerveau, on pourrait dire, alors c'est vulgarisé comme je vais le dire, mais c'est pour se représenter, la forme de ton cerveau, au lieu d'être un rond, va être un ovale. Bon, c'est pas du tout ça, hein, c'est juste pour pouvoir se le représenter. Voilà. Et donc, une fois que t'as la forme de ton cerveau est comme ça, bah, elle va rester comme ça toute ta vie. Donc, un trouble neurodev ne se traite pas. Tu peux...
apprendre à vivre avec, c'est ça ?
Voilà, on va trouver des adaptations, voir comment on peut vivre avec les choses qui fonctionnent différemment de la plupart des autres personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça neuroatypie. C'est que, voilà, sur le plan neuronal, le fonctionnement est atypique. Enfin, en tout cas, atypique, ça veut dire que c'est en référence à une norme, hein, ça veut dire que c'est pas comme la majorité des gens. C'est juste ça que ça veut dire. Voilà. Alors que un TDI, on parle des connexions neuronales. C'est-à-dire que si tu regardes la structure du cerveau, il ne va pas être, si je reprends mon exemple un peu grossier, ovale ou rond, il va rester rond, mais alors il va pouvoir grandir ou rapetisser, mais ça, ça va être pareil. Imaginons que tu apprends la musique. Les parties de ton cerveau qui gèrent ce dont tu as besoin pour jouer d'un instrument, bah, elles vont être plus grosses, et puis si tu arrêtes de jouer de la musique, bah, ça va diminuer. Et ça, c'est lié au fait que tu as plus de neurones, puisque ton cerveau va recruter des neurones pour utiliser ça. Et donc, bah, là, ça va être plutôt des choses comme ça. T'as des parties qui vont, entre guillemets, mourir, ou qui vont se mettre en sommeil, puisque tes connexions cérébrales sont altérées, donc elles ne sont plus très utilisées, sauf quand tu as un déclencheur et que, du coup, bah, là, ça va s'activer. Et ça va fonctionner seulement en vase clos, on pourrait dire, avec ces groupes de neurones altérés, puis jusqu'à ce que la connexion avec le reste s'arrête, quoi. Mais par contre, c'est réversible, en théorie. Parce que ben, pour l'instant, on ne sait pas encore si on peut vraiment traiter le TDI ou si, en fait, c'est quand même tellement structurel que ben, on peut atténuer, et on va peut-être parler un petit peu après de comment on travaille ça en thérapie, mais on peut atténuer ça, a priori, donc ça remodifie les connexions cérébrales. Voilà. Est-ce que ça se traite complètement ? Ben, ça, je ne sais pas.
Ben, je me demande aussi quelle est la différence avec la schizophrénie.
Alors, c'est une bonne et une mauvaise question. C'est une bonne question dans le sens où il semblerait qu'il y ait beaucoup d'erreurs de diagnostic entre schizophrénie et TDI.
C'est-à-dire... Ah, quand même. Je ne suis pas tout seul à me poser la question.
Non, vous savez, quand je dis c'est une bonne question, c'est dans le sens... Là où c'est une mauvaise question, c'est que je ne suis pas spécialiste de la schizophrénie. Donc, je vais pouvoir donner quelques éléments, mais je ne vais pas pouvoir approfondir parce que moi, en libéral, Alors, j'ai quand même reçu des messages là récemment parce que dans la dernière vidéo YouTube qu'on a fait, on a parlé aussi rapidement de schizophrénie et je n'ai pas détaillé, j'ai expliqué que c'était parce que je n'étais pas spécialiste.
Et qu'en libéral, ce n'est pas des cas que tu retrouves.
C'est pas des situations, voilà. Et il y a une personne quand même qui m'a dit, ben écoutez, moi je suis diagnostiquée avec une schizophrénie, et oui, je suis effectivement suivie en hôpital de jour, mais je suis aussi en libéral. Donc c'était intéressant le témoignage, vous pourrez aller voir si vous voulez le témoignage de cette personne qui explique ben, voilà, ce qu'elle fait en libéral. Mais sinon, la plupart du temps, la schizophrénie, c'est une pathologie psychiatrique avec une dimension génétique qui fait que elle est assez envahissante et les personnes sont médicamentées, donc la plupart du temps, elles sont plutôt suivies en hôpital de jour, l'hôpital psychiatrique, quoi.
Mais les symptômes ont l'air à peu près similaires ?
Alors, a priori, non. C'est pas la même chose. Déjà, sur le plan du fonctionnement cérébral, du coup, c'est pas du tout pareil. J'ai pas lu d'études, mais du coup, ce que j'en comprends, c'est que si on met deux personnes dans une IRM, eh ben, on va pas avoir cet élément de... qu'on a dans le TDI, où sont les différentes parties émotionnelles qui s'activent en fonction de ce qui est déclenché. Voilà, a priori, ce serait pas la même chose pour la schizophrénie, ce serait plus un élément différent. Voilà, donc du coup, par contre, ces questions de des personnalités, c'est ce qu'on disait avant, une personne schizophrène, enfin, j'aime pas dire schizophrène, c'est plutôt qui est atteinte de schizophrénie, parce que la personne ne se résume pas à ça.
C'est plus juste.
Ouais. Du coup, a priori, avant on disait c'est des personnes avec une double personnalité, mais c'est pas du tout ça la schizophrénie. C'est des personnes qui ont ce qu'on appelle des bizarreries, mais rien que le terme il est un peu dévalorisant, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui fonctionnent différemment dans le cerveau de ces personnes du fait de la pathologie, et du coup, qui créent des choses qui peuvent paraître étranges à l'extérieur. Et du coup, en plus de ça, malheureusement, la schizophrénie a longtemps été perçue comme dangereuse. C'est-à-dire que les personnes qui étaient atteintes de schizophrénie pouvaient être des personnes dangereuses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais dans plein de pathologies, c'est le cas aussi. Et pas que dans la schizophrénie. Il y a aussi plein de gens atteints de schizophrénie qui ne sont pas dangereux du tout. Ils sont plutôt angoissés aussi et ils ont des problèmes relationnels importants. Donc voilà, a priori... donc là, vous pouvez lire le super article qu'avait fait Olivier Pieffort-Marin sur le trouble dissociatif. Je crois que ça s'appelle le trouble dissociatif mythe ou réalité. Et il décrit bien voilà, les erreurs qui ont pu être faites pendant longtemps sur des... On a diagnostiqué des personnes avec une schizophrénie alors qu'aujourd'hui on dirait qu'elles ont un TDI, et c'est important parce que c'est pas la même médication que tu peux apporter.
D'accord. Et on va revenir plus au niveau du cabinet du coup, parce que là on était parti plus dans l'hôpital finalement. Et qu'est-ce que tu peux faire toi avec tes patients qui souffrent de troubles dissociatifs de l'identité ?
Alors, bon, je connais pas toutes les approches, mais parmi toutes celles que je connais, pour moi, l'approche vraiment la plus pertinente pour le TDI, c'est la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité de Van der Hart, et d'une manière générale, toutes les approches qui traitent la dissociation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la théorie de la dissociation structurelle, c'est qu'elle offre un cadre théorique pour penser et pour comprendre le TDI. Après, t'as plein d'autres approches, comme la théorie sensorimotrice, la thérapie sensorimotrice, comme j'ai même vu dernièrement, au dernier congrès de la FTD, une personne qui travaillait avec la théorie polyvagale. Bon, il y en a aussi dans la sensorimotrice. Hein. Tu peux avoir, même en thérapie des schémas, avec les modes. Enfin, après, tu peux avoir différentes pratiques. Mais la théorie de la dissociation structurelle de Van der Hart, elle permet vraiment de penser et de réfléchir, puisqu'on va identifier, donc avec la première étape en fait de cette approche, c'est d'identifier avec les patients ce qu'on appelle le système. Le système, c'est l'ensemble des parties émotionnelles, et ils estiment qu'il y a une partie apparemment normale qui est celle qui fonctionne pour tous les jours, quoi, qui peut dormir, manger, aller aux toilettes, enfin faire les fonctions de base, et ils disent apparemment normale parce qu'elle peut sembler ne pas être atteinte d'une pathologie puisqu'elle fonctionne presque normalement. Voilà. Ce serait... Moi, j'aime pas trop le terme de normal. Bon, en tout cas, il y a une partie, la partie qui fonctionne de tous les jours, et puis toutes les autres parties émotionnelles. Et donc, on va passer pas mal de temps à identifier toutes ces parties émotionnelles. Alors, si on prend la thérapie des schémas, par exemple, ou même l'analyse transactionnelle, hein, qui a aussi, on pourrait dire, on peut utiliser des parties finalement en analyse transactionnelle, puisque tu as le parent, l'adulte et l'enfant, et tu peux considérer qu'il y a plusieurs alors eux ils appellent ça état du moi, mais bon, ça pourrait être des parties émotionnelles aussi, et on pourrait dire qu'il y a plusieurs parties enfants et plusieurs parties parents. Et donc là, dans la dissociation structurelle, ce que j'aime mieux par rapport à la thérapie des schémas qui a des modes et l'analyse transactionnelle et les autres approches qui ont des états du moi ou des parties, c'est que dans ces autres approches, on a donné déjà des noms. Alors c'est très pédagogique, et puis pour les personnes qui n'ont pas des troubles dissociatifs de l'identité, ça peut complètement suffire. On va les appeler l'enfant vulnérable, on va les appeler parents critiques, des choses comme ça. Mais dans la théorie de la dissociation structurelle, tu vas identifier le système et tu pars de zéro. C'est-à-dire que pour chaque partie, tu vas donner un nom, donc c'est évidemment pas toi qui les donnes, c'est le patient, et on va essayer de comprendre comment fonctionne chaque partie. Quand vous êtes dans telle partie, alors voilà, quel est le type de pensée qu'elle a, quel est le type d'émotion qu'elle a, quels sont les déclencheurs qui font qu'elle s'active, quels sont son système d'action, est-ce qu'elle vous protège, est-ce qu'elle vous permet d'être en lien avec les autres, est-ce qu'elle vous permet d'explorer le monde, enfin, voilà, tout un tas de choses.
Donc ça partirait en plus du principe que les parties ont des utilités précises.
Tout à fait, c'est puisqu'elles sont issues des traumatismes, donc certaines sont vraiment... des parties qu'on appelle fragiles, c'est celles qui sont traumatisées, par exemple celle dont je disais tout à l'heure qui aurait 5 ans et qui vient de vivre le traumatisme et qui est complètement démunie. Donc elle, on pourrait dire par exemple, elle a de l'impuissance à l'intérieur d'elle, c'est quand elle commence à se sentir démunie qu'elle s'active, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et puis à côté de ça, tu vas avoir des parties contrôle, celles qui sont dans la protection, par exemple, une partie stratégique pour protéger la partie qui fragile qui souffre. Et ben, tu peux en avoir une qui se met en colère après tout le monde, par exemple. Mmh. Et donc celle-là, ben, son émotion, c'est la colère. Etc. Donc tu vas passer beaucoup de temps au début à bien connaître le système, et puis petit à petit à pouvoir. L'intérêt, c'est pas que toi, psy, tu le comprennes. Enfin. Ça a un intérêt parce que tu vas pouvoir orienter la thérapie grâce à ça. Mais ce qu'on veut, c'est surtout que le patient ou la patiente apprenne à connaître son système pour qu'on diminue les phobies des parties. C'est-à-dire que, petit à petit, comme les patients apprennent à connaître comment ça fonctionne à l'intérieur d'eux, ils en ont de moins en moins peur. Et au début, il y a des parties auxquelles on n'a pas accès parce qu'elles sont vraiment planquées dans un coin. Et puis, petit à petit, ben, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte que ces parties puissent se parler pour pouvoir réintégrer tout ça et que ce soit plus des parties différentes, mais qu'en fait, ce soit un peu comme toi quand tu penses à, je sais pas moi, le Fabien qui travaille, bah c'est pas une partie dissociée de toi. T'as peut-être pas, tu te comportes peut-être pas exactement pareil, tu fonctionnes peut-être pas exactement pareil, mais c'est quand même, tu le ressens quand même comme une partie de toi.
Oui, bien sûr.
Donc on appelle ça l'intégration. Et voilà, ça, une fois qu'on a fait, on a tout un tas de techniques pour apprendre aux patients à faire de l'intégration. Si on fait, par exemple, du reparentage, c'est une forme de travail dissociatif. Alors, on ne va pas faire du reparentage avec une personne TDI tout de suite, hein, ça nécessite tout un tas de travail, voilà, c'est une forme de travail dissociatif qu'on peut avoir avec des personnes qui ont des troubles dissociatifs partiels ou pas de troubles dissociatifs, mais des dissociations qui ne sont pas pathologiques spécialement. Bon, voilà, c'est en très gros, mais c'est ça l'idée.
Ok, est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter à propos du TDI ?
Ben, ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est que c'est quand même une pathologie qui... Parce que parfois, on peut voir sur les réseaux sociaux des choses, ça a l'air amusant. C'est une pathologie qui n'est pas amusante du tout. Je veux dire, il y a beaucoup d'angoisse. Et puis, si ça s'est construit comme ça, c'est pour que le cerveau puisse continuer à fonctionner alors qu'il y a eu des tas de traumatismes. Donc, c'est pas glamour. D'ailleurs, n'importe quelle pathologie est glamour. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pas amusant, c'est pas quelque chose. C'est pas des jeux d'acteurs, quoi. Voilà. Voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à ça. Dire aussi que ben, moi, j'y crois vraiment.
Est-ce que tu pourrais me dire comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas ?
Ben, parce que, comme pour toute pathologie, ça nécessite des études. Et aujourd'hui, l'état actuel des études ne nous permet pas de dire que, de source sûre, ça fonctionne dans le cerveau. Et on peut le voir dans le cerveau. Tu vois, c'est juste une hypothèse de travail. Mais en réalité, moi, je te dirais, tous les diagnostics sont des hypothèses de travail, finalement. D'ailleurs, il y en a plein qu'on ne peut pas voir dans le cerveau. Tu ne vas pas sur un cerveau une personne dépressive, et pourtant, c'est pour le coup, il y a un consensus sur l'existence de la dépression ou des dépressions. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais bon, je vous invite à aller voir toutes nos publications qu'on a pu faire sur la dépression, où en fait, il y a plein de dépressions différentes. Mais voilà. Donc, je dirais, pour moi, ça correspond à une réalité qu'on voit dans nos cabinets. Et maintenant, bah, si on veut que ce soit scientifique, il faut pouvoir le montrer. Voilà. Il y en a qui vont dire que c'est des patients qui ont un trouble de la personnalité, par exemple, ou des patients sont hystériques, ou des patients. Ils vont dire que c'est un autre diagnostic qui existe déjà, ou même pour certains, on va dire qu'ils feignent. Ils sont...
Je dirais que c'est un jeu d'acteurs, finalement. Et...
Ouais, ils font semblant pour diverses raisons, chacun, avec des bénéfices secondaires. Moi, je crois pas. Je crois vraiment que les personnes sont authentiques. Dans le sens où je crois vraiment que les personnes qui consultent ne viennent pas consulter pour s'amuser, en fait. Déjà, ça coûte cher.
Ça demande du temps, de l'énergie.
J'ai des personnes dans mon entourage dernièrement qui me disaient, il y a des fois, tu ressors de là, t'es pas bien, quoi, parce que ça remue des choses, ça fait revenir des choses que t'avais mis de côté, alors notamment dans tout ce qui est dissociatif, effectivement, puisqu'on essaie de travailler ça. Alors, on essaie d'y aller le plus doucement possible pour que, justement, ce soit pas traumatisant, mais c'est pas toujours agréable. Donc, moi, je crois pas du tout que les gens qui viennent en thérapie, ils viennent pour s'amuser, ils ont des vrais troubles. Alors après, savoir discriminer les troubles grâce à des diagnostics, c'est pas si simple. Voilà, vraiment, je renvoie au débat qu'on a déjà fait sur d'autres publications à ce sujet. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même important de suivre l'évolution des connaissances diagnostiques. Ça change pas toujours énormément de choses pour le traitement en thérapie, hein, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, même dans notre vidéo sur le trouble borderline, par exemple. On n'a pas forcément besoin de connaître un diagnostic pour travailler en thérapie. Ce qu'on a besoin de connaître, c'est ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire comment fonctionne la personne, quel que soit son trouble. Mais néanmoins, quand on fait l'hypothèse des troubles dissociatifs, ben vraiment, la théorie de la dissociation structurelle est très utile, alors qu'on en a peut-être moins besoin dans d'autres approches, je dirais ça. Voilà, donc à suivre. Et vraiment, j'invite à lire, bah peut-être si tu peux le mettre en description, l'article d'Olivier Préfort-Marin qui est très très bien sur le trouble dissociatif de l'identité et pourquoi lui, il estime que vraiment c'est un réel trouble et qu'il faut continuer les recherches dessus pour montrer que ça existe et que c'est pas juste fantaisiste, c'est pas non plus de la schizophrénie, c'est encore autre chose, c'est pas non plus du trouble de la personnalité, c'est encore autre chose et que c'est très intéressant de pouvoir le diagnostiquer pour proposer ces éléments-là de travail en thérapie. Et puis il y a le bouquin, alors je ne l'ai pas encore lu, mais d'Éric Binet, alors, je ne sais pas s'il l'a coordonné ou complètement écrit, qui s'appelle « Le traité, le trouble dissociatif de l'identité ». Il y a la deuxième édition qui vient de sortir là récemment, et vraiment Éric Binet, là il vient de passer la main, mais c'était le président de la FTD là, ces dernières années, et Olivier Préfort-Marin c'était le président avant, ces deux personnes qui font de la recherche, qui sont des universitaires et qui font vraiment du boulot formidable. Donc voilà, j'ai le bouquin, je ne l'ai pas encore lu, mais je le recommande quand même parce que j'ai toute confiance dans la FTD et Éric Binet.
Ok, eh bien merci, on va terminer cet épisode-là. Donc je vais essayer de vous mettre toutes les sources dont m'a parlé Catherine en description, et puis on se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast, mais cette fois-ci ce sera avec un invité, une invitée plutôt.
Une invitée, est-ce que tu veux dire sur quoi ce sera? Pour faire du teasing?
Ça sera sur les alternatives à l'EMDR, et en particulier une approche de thérapie sur laquelle je suis en train de me former. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.